Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous gémirez et vous pleurerez un jour. Malheur à vous quand les hommes vous loueront, car autrefois leur père traitait ainsi les faux prophètes. Eh bien, voilà. Donc, les riches. Mais vous avez des personnes pauvres qui sont des riches, qui ne pensent qu'à l'argent, qui sont jaloux, qui sont toujours pleins de mépris et de haine. Et même entre pauvres. Il faut voir des SDF se déchirer, s'insulter et se battre. Voyez. Et alors que vous avez des SDF qui sont là, qui sont frappés par la pauvreté, par la situation de leur vie, par un divorce, et qui ne demandent rien à personne, simplement à vivre, à être aidés du plus simplement possible. Voyez. Alors le paradoxe actuellement, c'est qu'on... On fait des bâtiments et tout ça pour des réfugiés économiques qui viennent d'arriver. Et vous avez des gens qui sont là depuis 10 ans dans la rue. Et eux, on les laisse dans la rue. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Bien sûr que les migrants des théâtres de guerre doivent être accueillis. Mais avant, on faisait des camps de réfugiés aux frontières pour qu'ils puissent revenir le plus vite possible. On ne les dispersait pas à 1000 km ou 2000 km de chez eux. Et alors ceux qui sont déjà là depuis des années, alors comment on va s'occuper d'eux? On s'occupe pas d'eux? Enfin, c'est pas quelque chose qui est... Bon. Mais justement, il faut faire attention. Hein, vous avez un signe de l'abandon divin. Hein, c'est quand quelqu'un est riche, en bonne santé, le dernier des salauds, qui fait souffrir les autres, qui méprise les autres. Et qui meurt dans son lit. Eh bien, les théologiens disent qu'il ne peut rien dire à Dieu parce qu'il lui a laissé la santé. Mais en soi, c'est un abandon divin. Pourquoi? Et parce qu'une épreuve aurait pu le faire réfléchir. Mais dans la science éternelle de Dieu, Dieu sait que cette épreuve ne servira à rien et qu'il ne se convertira pas. Donc il le laisse. Il meurt et il se damne. Voilà, gentiment. Parce que, voyez-vous, il a la haine de son prochain. Mais ce n'est pas parce qu'il est riche en soi, mais c'est parce qu'il ne pensait qu'à lui. Mais il a sa consolation, donc il n'a rien à dire. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Voyez. Il ne pense qu'à eux, il ne pense qu'à leur plénitude personnelle. Mais... C'est là que, voyez-vous, dans la doctrine sociale de l'Église, il nous est bien dit que les riches sont la providence des pauvres. Et que vous avez des personnes qui resteront toujours riches. Parce qu'elles sont entreprenantes, qu'elles vont avoir des revenus, elles vont avoir des... Et puis vous avez des gens qui seront toujours pauvres parce qu'ils sont en difficulté, ou alors c'est trop long pour eux d'acquérir un patrimoine... dans les conditions économiques de là où ils vivent, alors même qu'ils sont aussi, agiles que d'autres. Mais bon, quand bien même vous avez quelqu'un qui vit dans une famille très modeste, qui n'a pas d'argent de sa famille, mais qui va être un excellent ouvrier, s'il termine contremaître à la fin de sa vie, il ne sera pas non plus très riche. Vous voyez ? Mais... Cette richesse, cette toute intérieure, ce désir de richesse, il faut bien prendre garde à ce que veut dire Dieu lorsqu'il dit ça. Malheur à vous qui riez maintenant. Alors vous avez le franc-maçon de service Umberto Eco. Celui qui a la haine de la religion et du Christ, que Dieu le convertisse et qu'il puisse vivre dans la vie éternelle, dans l'amour. Mais Umberto Eco passe sa vie à attaquer l'Église catholique. Hein. C'est un franc-maçon délirant, rosé-crucien au dernier degré. Et donc, dans son roman Au nom de la rose, vous voyez. Et le film qui en est tiré est très juste par rapport au roman. Et c'est la méchante Église catholique dans son fond et dans son essence, n'est-ce pas? Austère, débile, puritaine, qui rend tout le monde malheureux et qui interdit de rire. Alors, bien sûr, là, on va extraire ce qu'on veut. Vous voyez, c'est malheur à vous, riches, alors c'est les méchants évêques, avec une bague à chaque doigt, qui méprisent les pauvres. Et là, on dit malheur à vous, riches, et Jésus a bien raison. Mais là, malheur à vous qui riez maintenant, on dit, ah voilà, vous voyez, hein, le christianisme, c'est qu'il faut pas rire. Donc ici, malheur à vous qui riez maintenant parce que vous gémirez et vous pleurez un jour, c'est le ricanement. C'est le rire satisfait du malheur des autres et qui n'aide pas les autres dans leur malheur. Malheur à vous, en effet. Malheur aux journalistes qui rigolent tout le temps. Moi, quand je vois les plaisanteries sur la Vierge Marie, sur... Moi, j'aimerais pas être à leur place au moment de leur mort, hein. Parce que franchement, faire des plaisanteries grivoises sur la Vierge Marie, pour choquer le bourgeois, pour choquer le gâteau, ben, ouais. Ça va pas très loin. Oh, mais vous n'avez pas d'humour. Oui, ben, vous verrez si le Christ a de l'humour pour sa mère. Malheur à vous, quand les hommes vous loueront. Ah. Car autrefois, leur père traitait ainsi les faux prophètes. Faites très attention. Quand vous avez 95% des journalistes qui vous disent que vous êtes un chic type, c'est que vraiment vous n'êtes pas bon. Actuellement, le grand critère, quand même, c'est le monde médiatique. Si 95% des journalistes vous disent que vous êtes quelqu'un de bien, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Il faut vous rentrer en vous-même et vous convertir et changer, quoi. C'est pas bon, pas bon du tout. D'être loué par l'ensemble des journaux télévisés du 20h, c'est très 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 mauvais, hein. Ou alors, vraiment, vous êtes hors catégorie. Mais il faut faire très très attention, et notre Seigneur nous le dit. Je vais passer plus vite, hein, sur les paraboles, comme par exemple celle de la terre, hein, d'être la lumière du monde. Ensuite, page 146. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais compléter, c'est-à-dire accomplir. Oui, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, toute la loi sera accomplie sans en omettre un seul iota ni un seul point. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les interdits alimentaires, par exemple, sur le porc, étaient un effort de vertu. Distinguer entre ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger, c'est pour nous pousser à penser à Dieu et à faire le bien. Alors, pourquoi ne pas avoir maintenu ces interdits alimentaires? Eh bien, parce qu'ils ne sont plus utiles lorsqu'on a, pour exemple, la mort d'un innocent sur la croix. Souvenez-vous de Jésus qui donne sa vie alors qu'il est l'agneau innocent, plutôt que de ne pas manger tel ou tel animal, ou de ne pas dépasser plus de 1 000 pas le jour du Seigneur. Voyez. Et donc, tous les interdits alimentaires tombent devant la charité dans sa finesse. Voyez. Celui donc qui transgressera l'un de ses moindres commandements et enseignera aux hommes à faire comme lui sera le dernier dans le royaume des cieux. Celui, au contraire, qui accomplira la loi et l'enseignera sera grand dans le royaume des cieux. Il est interdit de faire des images taillées. Oui, mais depuis que notre Seigneur est venu, il a fait une image de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu qu'est ce petit bébé. Donc on peut faire des petits bébés. Et on peut faire Jésus. Et on peut faire un crucifix. Et on peut représenter sa maman qui pleure au pied de la croix. Et on peut représenter sa maman heureuse de l'avoir dans ses bras. Mais si Dieu n'avait pas fait une image de son amour, on serait encore dans l'interdit des images, puisqu'on ferait des petits dieux à adorer pour obtenir des grâces matérielles. Mais du jour où Jésus fait une image de la tendresse du Père, Alors à ce moment-là, tout est lié à la tendresse, à la douceur et à la bonté de Jésus. Donc je peux faire une statue de Saint-Eugène, je peux faire une statue de Saint-Michel, je peux faire une statue de Sainte-Marthe, de Sainte-Madeleine, de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi? Parce que toutes ces images sont référencées à l'Enfant Jésus, à Jésus qui meurt pour nous. Donc ce ne sont plus des images pour elles-mêmes. Ce ne sont plus des dieux qu'on adore et à qui on demande l'intelligence, la réussite, la victoire à la guerre, comme le dieu Mars, voyez, ou Athéna, ou Jupiter. Non, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté parmi nous dans ce petit corps humain qu'est le bébé et qu'est Jésus. Alors, toutes les autres images sont référencées à cette apparition de l'amour de Dieu. On dit oui, mais il y a des statues de saints qui sont en or massif, avec des brillants, avec des pierres semi-précieuses, tout ça. Eh bien, c'est la beauté de leur vertu. Normalement, on ne doit pas s'arrêter à elles. Vous voyez, quand on prie Sainte Rita ou. Comment dire, bien sûr qu'il y a le danger de superstition. Mais normalement, c'est, si vous voulez, on s'adresse aux amis du roi pour peser sur le cœur du roi. Oui. On s'appuie sur la mère du roi pour obtenir des grâces de la part du roi. On appuie sur le cœur immaculé de Marie pour qu'elle appuie sur le cœur sacré de Jésus. Oui. Gardez-vous pourtant de donner aux chiens ce qui est saint et de jeter vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se tournant contre vous, ils ne vous déchirent. Le commentaire est très bon. La charité, bien entendu, n'est pas aveugle. Elle s'accompagne dans son exercice de tact et de prudence. Plein de respect pour les dons divins, elle se garde de les exposer à la profanation des esprits mal disposés. Elle est surtout d'une réserve extrême à l'égard de ces âmes qui, tout ensevelies dans l'animalité et ne pouvant rien comprendre aux choses de Dieu, méprisent sa vérité et insultent son amour. Voilà. Alors là, l'évangile devient de plus en plus exigeant. Je vous l'en dis en vérité, si votre justice ne l'emporte pas sur celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera traduit devant le tribunal du jugement. Et moi je vous dis, quiconque s'irrite contre son frère sera déféré au tribunal du jugement. Quiconque traitera son frère de raca, de fou, enfin de raca c'est tête vide, racaille. Racaille, ça vient de là, vous vous rendez compte? Oui, tête vide, sauvageon, comme dirait Monsieur Cazeneuve. Enfin, nous sommes bien coupables de ne pas avoir donné dans les écoles de la Sainte République laïque le minimum de vertu naturelle à ses enfants. Comparaîtra devant le conseil, et celui qui l'appellera fou méritera l'enfer, hein, la géhenne de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une très grande finesse. On ne doit même pas insulter dans son cœur l'autre, on doit prier pour lui, être indulgent pour lui, même si on le met en prison. Voyez, c'est comme ces pilotes de chasse en 14-18 qui priaient pour celui qu'ils étaient en train d'abattre. Parce que tous les deux étaient chrétiens. Vous aviez l'officier allemand qui avait fait sa prière du matin et du soir toute sa vie, et l'officier français qui avait sa prière du matin et du soir toute sa vie, et qui, avant de commencer le duel aérien, se saluait, faisait le signe de croix et allez hop! Allez. C'est très impressionnant, hein. Maintenant, vous avez un gros porc avec un verre de Coca-Cola et un Big Mac devant sa console de drone. Ah, t'as vu ça? Je les ai éclatés. Il doit y avoir 50 morts là. Pas tous, hein, mais dans les bureaux les centres de contrôle de drones, vous avez même des personnes qui ont de tels remords de conscience qu'ils pètent un plomb, hein, et qui vont, qui font des dépressions parce que, à force de tuer des gens sur des joysticks, ça les rend fous. Et ils préféraient à la limite, vous voyez, les tuer en leur tirant une balle dans le cœur, face à face. C'est plus honnête, en quelque sorte. Oui. Donc il faut être extrêmement spirituel en disant, ce sont des ennemis qui tueront des innocents à terme. Donc quelle que soit la manière dont je les tue, il fallait les tuer. C'est comme celui qui arrive sur un pont. Vous avez la division d'Israël qui arrive et qui va massacrer la moitié du village. Voyez? Et vous êtes en avion et vous avez une bombe. Et vous avez un enfant qui joue sur le pont. Et vous avez beau passer, passer, repasser, l'enfant il bouge pas du pont. À un moment donné, ben, vous détruisez le pont. Et s'il y a un enfant, eh ben, il meurt. Et vous recommandez l'enfant à Dieu. Mais c'est affreux ce que vous dites, oui, mais c'est la guerre, c'est affreux. Oui. C'est comme en ce moment, Poutine, qui de manière, avec un humour extrêmement grinçant, dit, vous me reprochez de bombarder Alep Est, alors que vous avez des égorgeurs là-bas depuis 2 ans, qui bombardent, eux, qui envoient des mortiers sur Alep Ouest, et personne n'en parle d'ailleurs, qui tuent des civils, enfin, ils s'entretuent depuis 2, 3 ans. Et alors, Poutine a dit, mais j'espère que quand vous attaquez Mossoul, où il y a 1 500 000 civils, j'espère que vous ne tuerez pas de civils, hein, dans votre offensive. Et vous savez que pour prendre une ville, hein, vous avez des bombardements avant que les troupes au sol arrivent. Il y a certains civils qui vont mal se cacher et compter sur les Américains pour aussi avoir des bombes anti-bunkers. Des bombes qui traversent 3 mètres de béton. Et bien là, le Christ nous demande vraiment une très très grande finesse. On doit prier pour ses ennemis, pour ceux qui nous énervent, qu'on appelle fous, qu'on appelle idiots, racailles et tout ce que vous voulez. Et vous me direz, c'est le christianisme décadent est très beau. Les 4 policiers dans la voiture. Seigneur Jésus, recevez notre âme et que ceux qui veulent nous brûler vifs soient pardonnés. Mais en quelque sorte, leur inaction et leur passivité sont un christianisme dégénéré, vous voyez. Il y a quelque chose de vrai et de bon dans leur attitude, mais c'est excessif. Vous voyez. De ne pas utiliser leur arme alors qu'ils sont... qui sont directement visés pour être tués, c'est parce que le juge dira « Ah, mais une cocktail Molotov, c'est pas une balle. » Ouais, mais ça y ressemble. Si donc vous présentez votre offrande à l'autel et que là, vous vous souveniez que votre frère a quelques griefs contre vous, laissez votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Alors là, vous êtes coupable, attention, hein. Ce n'est pas des griefs alors que vous êtes innocent et que l'autre s'imagine que. C'est parfois mal interprété ce passage. Hein. Si donc vous présentez votre offrande à l'autel, si vous allez prier, si vous allez à la messe, et que là vous vous souveniez que votre frère a quelques griefs contre vous, c'est que vous lui avez fait du mal. Laissez votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Demandez pardon. Aïe, ça pique. Oui. Alors seulement vous pourrez venir présenter votre offrande. Ne tardez nullement à vous accorder avec votre adversaire, tandis que vous cheminez avec lui. C'est-à-dire que tant que vous êtes en vie sur la vie terrestre, hein, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge, que le juge ne vous livre à l'exécuteur, et que vous ne soyez jeté en prison. Je vous le déclare en vérité, vous n'en sortirez pas que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne tardez nullement à vous accorder avec votre adversaire, tandis que vous cheminez avec lui de peur que votre adversaire ne vous livre au juge. C'est-à-dire que celui à qui vous faites du mal, eh bien, il sera vengé en stricte justice devant Dieu, puisque Si vous ne voulez pas demander pardon, eh bien vous ne serez pas pardonné. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein. Le pardon inconditionnel de Dieu. Cette expression est très très délicate. La condition, c'est qu'on ne fasse pas obstacle à la grâce de regret. Et si on ne regrette pas le mal qu'on a fait à quelqu'un, eh bien, dans la justice divine, le mal qu'on a fait devra être réparé, et on sera jugé et condamné à réparer le mal qu'on a fait. Et Jésus le dit explicitement ici. C'est un des lieux du purgatoire, ce passage. Vous devrez réparer le mal que vous avez fait si vous ne le regrettez pas. Mais si vous le regrettez, ne tardez nullement à vous accorder. Si vous ne tardez pas et si vous vous réconciliez, si l'autre refuse de vous pardonner, c'est lui qui devient dur. Oui. Mais vous, vous aurez fait votre part. C'est vraiment... Et là, Jésus dit, de peur qu'il ne vous livre au juge, c'est-à-dire qu'il se plaigne de vous auprès de Dieu, que le juge ne vous livre à l'exécuteur, le purgatoire, il y a un feu réel au purgatoire, et que vous soyez jeté en prison. Eh bien, voyez-vous, tout cela est lié à l'authenticité du regret. Donc, si vous voulez, en doctrine et en foi catholique, le pardon est lié au regret. Le Christ le dit en long, en large et en travers. Vous voyez ? C'est pas un pardon inconditionnel absolu. Par contre, le bon Dieu dit bien, bienheureux les miséricordieux. C'est-à-dire que si vous, au nom de Dieu, vous dites, moi, je suis de votre côté, Seigneur, et je pardonne, vous entrez dans le pardon offert de Dieu. Et vous serez récompensé de ne pas réclamer une stricte justice. Mais seulement, si vous-même vous êtes dans la disposition divine de pardonner, et que Dieu, lui, est dans sa disposition naturelle de pardonner, parce que Dieu est bon, mais l'autre dit, « j'ai pas envie d'être pardonné. Allez, Dieu... va voir ailleurs si j'y suis. » Oh, c'est pas gentil. Dans la vie éternelle, il n'y a pas d'âmes qui sont là en disant « Qu'est-ce que je fais là? Je vous déteste tous. Dieu, je te déteste. » Non, ne vous inquiétez pas, je lui ai pardonné. Alors, vous avez un jésuite qui était là, après un long, long purgatoire, à dire aux gens que tout le monde ira au paradis. Il y est quand même. Et là, il est là, et il fait « Seigneur, vous pourriez quand même le convertir. » Et Jésus lui dit « Mais vraiment, tu seras toujours une bille en théologie et en psychologie. T'es indécrottable. Hein. Il veut pas m'aimer. Mais je sais pas, hypnotise-le, fais une transplantation de cerveau. Mais d'abord, il en a pas pour l'instant. Son corps, il est en bas. Hein. » Donc, il a que son âme. Mais je sais pas, fais quelque chose. J'ai dit, j'ai respecté sa liberté. Je respecte sa liberté. Et toi, c'est bien parce que tu m'aimes au fond que tu es là. Hein. Parce qu'il y a bien des fois, j'ai bien envie de temps en temps de te renvoyer au purgatoire. Hein. Voire un peu plus bas pour que tu saches un peu ce que c'est de vivre avec tout un groupe de ce bonhomme-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein, je l'ai mis auprès de toi tout le temps, exprès. Alors, qu'est-ce que tu décides? Allez, pauvre type, je te déteste, tout ça, il a bien raison, Dieu, quel crétin t'es, t'es une... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va le renvoyer en enfer. C'est une petite expérience, vous voyez, vous prenez de temps en temps un damné, vous le mettez au ciel, il est là, en plus, il est... Il veut pas voir Dieu, il veut pas entrer dans la vie divine, il veut pas la vision béatifique, enfin, il est dans une haine recuite. Et puis vous avez les damnés calmes, hein, ils sont là, ils sont pas insultants, ils disent « Je ne pense qu'à moi et je me fous de vous. Qu'est-ce que je fais là? Renvoyez-moi en enfer. J'y souffre, mais au moins ça correspond au vide que j'ai choisi. Alors, vous allez me dire, alors, vous avez arrêté votre vocation d'acteur ou de conteur. Comment vous dire que la damnation est un acte libre? Et que la peine qui est liée à la damnation est quand même une certaine justice divine. Qu'il y a un feu réel en enfer pour nous dissuader d'y aller. Parce que brûler vif, avant on insistait beaucoup plus, hein. Mais que la peine profonde de l'enfer soit la haine, l'égoïsme total, eh bien, il faut le dire quand même. C'est vrai. Et ça peut même justement toucher des âmes et qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pensé qu'à elles et qu'elles ont fait du mal autour d'elles, dans leur famille, et qu'il y ait ce qu'on appellerait naturellement un déclic, n'est-ce pas? Et qu'il y ait une fente dans leur âme et que la grâce s'engouffre. Et ce pourquoi on doit prier pour qu'elles soient pacifiées et qu'elles entrent dans la joie de voir Dieu. Avez-vous des questions? Mais vous voyez que la théologie catholique et le catéchisme est fondée sur la Sainte Écriture.
Moi, juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, en tout cas, quand on n'a pas l'aide de Dieu en quelque sorte, je trouve que.
On l'a toujours.
Oui, enfin, il y en a qui le sentent ou pas. Et
Oui.
la société est tellement individualiste qu'elle rend, franchement, elle rend égoïste.
Tout à fait.
Quand on n'a pas une éducation ou des
Oui.
choses pour nous aider, quoi. Donc bon.
Mais là, on est dans ce que Jean-Paul II appelait ça des structures de péché.
Oui.
Secret Story, Plus belle la vie, les Marseillais, tout ça, c'est. Quand on les voit vivre, on se dit, mais même les souris vivent mieux, quoi. Les fourmis aussi vivent mieux. Bon, c'est un peu stakhanoviste, hein, mais les abeilles vivent mieux. Oui. C'est impressionnant, hein. Regardez Secret Story pendant 2 minutes, une fois par mois, pour vous rendre compte de l'état de dégénérescence personnelle de telle ou telle personne qui sont. Vous voyez, ça fait rire tout le monde. Hein. Par la manin. Hein. C'est vraiment symptomatique. Vous voyez, c'est une. Je sais pas, c'est une chanteuse ou une starlette qui tout d'un coup, dans une scénette ou dans comment dire, dans un moment de télé-réalité, qu'elle était là, et puis elle est. Il y a quelqu'un qui l'ennuie, tout ça, ah, ça va. Et là, elle invente une phrase, mais extraordinaire. Elle dit, allez, allez, parle à ma main. Hein. J'ai pas envie que tu me parles, mais si tu veux me parler, bah, parle à ma main. Mais c'est terrible comme phrase, hein, en soi. Oh, mais non, qu'est-ce que vous dramatisez? C'est pour rire, c'est. Bah oui, mais c'est. C'est. Bon. C'est le plancher des vaches. Voilà. Avez-vous des questions? Vous voyez, j'ai promis que on ne sera jamais 21h45, donc je m'y tiens pour pas que ça soit non plus.
J'en ai une, mais.
Oui, allez-y, allez-y.
J'aimerais juste savoir un peu la différence, qu'est-ce que c'est que le fanatisme ou la radicalisation en quelque sorte, enfin, est-ce que vous auriez une définition par rapport à ça?
Eh bien, c'est quand, si vous voulez, au nom de ce que vous croyez juste, ou ce qu'on vous a enseigné, vous dépassez ce qui est vertueux. Si le mot fanatisme ou radicalisme signifie quelque chose de mauvais, qui fait réagir des personnes sensées, c'est qu'on est dans l'excès. Quand on parle de l'intégrisme catholique, Bon, quel est cet excès? Ce sont des mots. Quand on parle de fanatisme religieux, chrétien, faut voir ce que ça peut vouloir dire. Un exemple serait aux États-Unis des évangéliques qui vont tuer ou qui vont placer une bombe dans un hôpital où on pratique des avortements. Mais d'ailleurs, on n'en entend pas beaucoup parler, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Vous aviez un médecin qu'on appelait le boucher. Il est un homme très 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 gentil. Il était quand même surnommé le boucher parce qu'il acceptait d'avorter très très tardivement. 7 mois par exemple. Enfin, c'était une césarienne et on tuait l'enfant, quoi. Enfin, le boucher, on l'appelait. Et donc, mais c'était un saint homme qui était dans une église protestante, super amour de Jésus, compassion de Jésus pour la femme pour qui ça serait une catastrophe d'avoir cet enfant. Et donc, alors qu'il était au temple en train de faire une lecture de la Bible, le chirurgien obstétricien en question, vous avez un dingo américain qui passait sa vie sur Internet et qui voulait passer à l'acte et qui voulait tuer quelqu'un de célèbre. Donc il disait, là je me ferais tuer avant, là je me ferais tuer, il y a des gardes du corps, tout. Tiens, lui, machin, le boucher, tout ça, tiens, mais je vais le tuer, il est connu, il y a des articles contre lui de la part de catholiques, de protestants évangéliques anti-avortement. Et lui était protestant, pro-avortement, par compassion pour la femme enceinte. Donc il prend son revolver, il va au temple, c'était l'office, le chirurgien était en train de faire la lecture, peut-être que c'était Osée, hein, le prophète Osée, parce que quand on est comme ça, on ose tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc il est là, peut-être qu'il est de bonne foi, hein, à aller chercher les enfants dans le ventre des mères. Puisqu'il lit la Sainte Écriture au temple. Hein. C'est hallucinant. N'empêche qu'il a été révolverisé. Hein. Le bonhomme, il est arrivé. Voilà. Heureusement qu'il n'était pas pratiquant. Et que c'était un fou. Si ça avait été un catholique qui allait à la messe tous les dimanches, ou même un évangélique qui allait au temple tous les dimanches, ça aurait été surexploité comme fanatisme et. Voilà. Et actuellement, si vous voulez, des musulmans ne peuvent faire la guerre à des infidèles que normalement si il y a une conquête religieuse en bonne et due forme. Mais les musulmans n'ont pas à tuer des femmes et des enfants par attentat. C'est pas prévu, ça. C'est bizarre, vous voyez. Par contre, là où il faut être très concret, et un vrai musulman le reconnaîtra, c'est que la guerre sainte peut consister à conquérir un territoire pour le soumettre au vrai Dieu pour eux. Et alors nous, on va nous dire les croisades. Les croisades, c'était les chrétiens d'Orient qui, justement, étaient sous une pression terrible. Ensuite, tout ce qu'on a fait aux orthodoxes en passant Venise à rétamer le port concurrent de Constantinople, tout ça, c'est le péché humain. Et ça fait pas partie intrinsèquement de la croisade. Mais la croisade, initialement, c'était pour aller au secours des chrétiens d'Orient. Et à la fin des croisades, au bout de 200 ans, les autorités musulmanes de l'époque ont consenti le passage auprès des lieux saints et ont donné un statut de dhimmitude un peu plus clément. Il y a eu un effet des croisades, de la protestation de l'Europe chrétienne par rapport à la dureté avec laquelle les communautés chrétiennes d'Orient étaient traitées. Ensuite, il y a des modus vivendi qui s'installent. Mais actuellement, si vous voulez, il y a une propagande tout à fait étrange sur Internet où on dit aux musulmans de poignarder les chrétiens. Par contre, en situation de guerre, c'est possible. Alors, nous, enfin les chrétiens, on n'ont pas fait de conquête religieuse au sens propre. Même Charlemagne, lorsqu'il a attaqué les Saxons, c'était plus pour avoir leurs terres que pour en faire des chrétiens.
Excuse-moi, pardon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens plus ou moins sensibles à la grâce?
Comment?
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des individus plus ou moins sensibles à la grâce? C'est-à-dire, il y en a qui ne vont pas se faire.
Ah ben justement, ça, l'Église le condamne. C'est ce qu'on appelle le jansénisme, hein, c'est de considérer que des gens sont damnés d'office.
Non, je me suis mal
Leur
exprimée.
âme, leur âme est dans
Pardon,
un...
je me suis mal
Oui.
exprimée. Qui sont moins sensibles.
La grâce est gratuite. Donc sensible ou pas sensible, la grâce de Dieu est toujours efficace, est toujours forte, est toujours suffisante. L'obstacle fait par une liberté humaine est un mystère. Vous avez des gens extrêmement méchants qui vont accepter une grâce que des gens tièdes n'accepteront pas. La grâce ne dépend pas absolument du tempérament de la personne et de l'obstination intrinsèque du tempérament de la personne. Saul, hein, était une peau de vache, hein, un type agressif, très volontaire, et qui croyait faire honneur à Dieu, donc il était fanatique, hein, Saint Paul, hein, ça rigolait pas. Hein. Et là, quand Dieu lui a donné la grâce, il n'a pas dit non. Et cette grâce, vous me direz, oui, mais enfin, si moi le Christ apparaissait au milieu d'une lumière solaire, moi aussi je me convertirais. Et si Saul s'était pas converti? Allez. Donc vous voyez, cette sensibilité à la grâce dont vous parlez, c'est très aléatoire et on ne peut pas se fonder dessus spirituellement pour classer les types d'âmes. Mais ce sont des éducations plus ou moins sensibles, dans le sens où il y a des éducations qui ferment plus ou moins la grâce par on dispose les gens à résister à la grâce, en les terrorisant, en les menaçant. Vous voyez, il est vrai que dans certains pays, abandonner la religion du pays est condamné, on est condamné à mort. Dans d'autres pays, c'est dommage, mais pas plus. Vous voyez. Chez les Vietnamiens, être baptisé n'encourait pas la colère de la famille qui était. Voyez. Par contre, en ce moment, vous avez des bouddhistes, hein, même pas des hindous, parce que les hindous, c'est des guerriers. Hein. L'hindouisme est très violent. On nous rabat les oreilles avec l'islam, on ne dit pas un mot de l'hindouisme. Je vous assure qu'il y a des régions en Inde où les musulmans sont des enfants de cœur par rapport à des hindous. Parce que, si vous voulez, dans un pays de musulmans d'Afrique noire, assez pacifique, si quelqu'un se fait baptiser, il sera insulté pour abandonner la famille, abandonner Dieu, tout ça. La pression familiale sera très très forte. Il sera rejeté du village. Mais en Inde, ils ont une arme en permanence sur eux. Hein. Et s'ils apprennent qu'il y en a un qui est baptisé, on le tue sur le champ. Comme dans un village afghan. Et c'est l'hindouisme. Et...
Excusez-moi, c'est ceux qui ne peuvent pas tuer une mouche, non?
Ah non, non, non.
Je ne sais pas ça.
Ah non, 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 les hindous, ils peuvent tuer tout ce qu'ils veulent, hein. Tout ce qui passe. Hein. Non, c'est les bouddhistes. Et certains hindous vont. Attention, ils vont. Si, si. Dans l'hindouisme, vous avez aussi le respect de la grand-mère qui est devenue un ver de terre ou une vache. Mais par contre, dès qu'il y en a un qui est contraire à Vishnu, on peut le tuer. Mais parce que c'est un démon. Puisqu'il est contre les dieux, on peut le tuer. Voyez.
Il y a des végétariens aujourd'hui, enfin, des gens qui culturent, enfin, qui
Oui, mais c'est les
pas.
végétariens occidentaux, ce sont sont des légumes.
Mais quelqu'un est
Ils ne
étranger
peuvent
dans la
pas tuer
pièce.
quelqu'un. Comment?
Voilà, donc
Vous avez
c'est
déjà
très
vu un
surprenant.
poireau tuer une tomate? Oui. Vegan. Voilà, mais ils doivent prendre des vitamines, des protéines, parce que sinon ils.
Une haine, un véritable haine, un congrès. Ils
Oui.
haïssent d'autres, par exemple, enfin, des étrangers, enfin, des gens de la couleur, des peaux,
Oui.
alors qu'ils sont très respectueux de la nature.
Ah oui.
C'est ça que j'arrive pas à
Ah
comprendre.
mais parce que c'est social une religion aussi. Hein. Oui. Ensuite, vous avez le bouddhisme. Eh bien, vous avez les bouddhistes en général sont assez pacifiques. Mais vous avez la Birmanie qui est bouddhiste. Et vous avez un courant bouddhiste ultra fanatique et intégriste. Et vous avez un moine bouddhiste qui est là, il dit, tous ceux qui sont contre Bouddha, il faut les tuer, il faut les expulser, ils nous apportent le malheur. Ouais. Mais vous savez, quand les missionnaires sont rentrés au Tibet, le Tibet était épouvantable. On nous prend le Dalai Lama, mais c'est d'une fausseté. Pas un étranger pouvait rentrer dans la capitale du Tibet. Ils étaient interdits comme impurs, comme des ordures. Il n'y a qu'eux qui étaient purs, n'est-ce pas? Eux qui prennent les enfants aux parents petits pour les mettre dans leur lamasserie, pour trier, pour. C'est des rapts d'enfants. Quand vous avez des réincarnations de dignitaires, ils vont dans les villages, ils prennent l'enfant le plus costaud, en meilleure santé, ils agitent les objets du mort sous son nez. Vous voyez, vous avez l'enfant de 2 ans qui est là. Il dit, ah, c'est lui. Il reconnaît son. Mais vous ne l'avez pas vu, il y a un reportage, un documentaire extraordinaire. Vous aviez le numéro 5 du Tibet, là, qui était mort. Et vous aviez un moine qui est là, qui va de village en village pour récupérer un petit garçon en très bonne santé. C'est tout juste s'il ne lui lève pas les babines pour voir les dents. N'est-ce pas? Et il a des objets du mort, il est là, il fait clic, clic, clic. Voilà. Et là, vous avez un enfant qui est là. Pourquoi il n'agite pas les objets? Il pourrait être aussi, s'être réincarné dans un enfant famélique. Non, non, c'est des petits enfants bien costauds. Et donc, ils vont à l'ama, tout ça, ils font une cérémonie, et après, les parents, ils repartent au village avec un petit pécule, tout ça, vous comprenez bien quand même, on vole l'enfant de 3 ans quand même. Hein. Et l'enfant, il arrive, et puis ses parents, il pleure, mais au bout de 15 jours, ben, c'est comme ça. Et c'est merveilleux. Et vous avez le Dalai Lama qui est là, dans le dernier jury, il est là, et on présente une sorte de chapelet bouddhiste. Gling. Et là, l'enfant était fatigué. Il bouge pas. Mais c'était l'examen final, quoi. Le lendemain, c'était la cérémonie de proclamation de la réincarnation. Alors, ils étaient embêtés. Et puis, c'était filmé. Ils sourient tous vers la caméra. Et ils n'ont pas pu, hop, couper au montage. Hein. Alors, il y a le père qui pousse le bras de l'enfant. Enfin, c'est d'un ridicule. Et le Dalai Lama était là. Hein. Donc là-bas, hein, il fait tout son petit truc. Et quand il vient en France, il dit venez, venez, vive le lotus et vive les fleurs. Et voilà. Et le bienheureux Maurice Tournet, lui, avait été exécuté par les soldats tibétains, hein, dans les années 50. C'était un Suisse, c'était un missionnaire suisse, qui dénonçait les conditions épouvantables des monastères tibétains. Et qui disait justement au peuple tibétain, mais regardez, vous êtes asservis par une bande de. Si vous voulez, les cathares vont vous dire, vous êtes asservis par l'évêque. Mais l'évêque, même s'il menait carrosse et qu'il avait des bagues à chaque doigt, les gens vivaient dans les villages, c'était pas un asservissement. Hein. Eh bien, au Tibet, je peux vous assurer que la caste sacerdotale là-bas, hein, ils vous prennent les enfants et tout ça, c'est carré de chez carré. Hein. Et les Chinois n'ont pas tout à fait tort en disant, mais c'est un système totalement féodal, mais féodal très strict. où tous les revenus, où beaucoup de, toute une partie des revenus des paysans partent à, comment dire, aux dignitaires. Ah oui, mais vous avez eu des abbayes concordataires, où vous avez les moines qui recevaient une partie des récoltes, des métayers, tout ça. Bon, ben, c'était l'organisation économique de l'époque, et c'était pas, on n'allait pas à récupérer les enfants des métayers pour les mettre au monastère. Hein. Et ça, c'est le système tibétain. C'est bon? Voilà.